Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et non, on ne prend pas une pause. Le monsieur a oublié de peser sur le piton. On est mercredi, le 11 décembre, il est midi 5 et c'est l'heure de Lido Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger à la barre, plus ou moins, de Lido Radio, comme d'habitude. Et cette semaine, je suis joint par mes deux comparses habituels, Nathan et Hugo. Comment ça va les boys?
Ça va très bien. La fin de session est là, puis on en profite.
Ouais, moi aussi, ça va très bien. J'ai hâte d'avoir terminé les examens, mais ça avance, ça achève.
Ouais.
Les boys, la fin de session achève. Qui dit fin de session dit session suivante. Fait qu'on commence l'émission sur une note un petit peu triste. On vous annonce aujourd'hui que vous écoutez à l'avant-dernière émission de Lido Radio, dans sa forme actuelle. Hugo et Nathan s'en vont en stage à la session d'hiver.
Et on n'a malheureusement pas le droit de quitter le milieu de stage avant la fin de la journée d'école. Donc,
ils ne seront pas disponibles. On a pensé faire enregistrer l'émission de soir, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être logistiquement très difficile pour tout le monde. Puis moi, en même temps, je vous dirais que j'ai pas mal fait le tour de la question. Alors, dans la vie, il faut savoir quand se retirer. Et pour pas que Lido Radio devienne une phase 4 du MCU, on va mettre terme à l'émission, dans le fond, selon nos à nos termes à nous. Donc, c'est ça, on vous annonce que il reste deux épisodes, le contenu est déjà prêt, puis après ça, ça sera si le club de jeux de rôle veut reprendre l'émission puis la présenter sur une autre forme ou n'importe quoi dans ce genre-là, la porte est ouverte. Sinon, CFAC va récupérer la plage horaire et faire le truc. CFAC ne le savent pas encore.
Ils l'apprennent là, en même temps tout le monde.
S'ils nous écoutent, ils l'apprennent là. Sinon, on va leur écrire là, cet après-midi pour leur annoncer la triste nouvelle. C'est triste et c'est joyeux en même temps parce que
on a... Ça aurait été un beau deux ans dans lequel on aurait eu la chance de discuter de jeux de société, de jeux de rôle, puis de voir quand même beaucoup de choses. Ouais,
partager notre passion, notre hobby avec nos auditeurs. Puis c'est ça, comme je vous dis, moi, c'est le temps. Là. Je le sens que avant que ça. Là, c'est encore le fun de le faire.
Ouais.
Mais c'est moins le fun que c'était et éventuellement ça va arriver à un point où c'est plus le fun puis ça devient une obligation et je veux partir avant ça pour n'avoir que des bons souvenirs.
C'est très bien ça, c'est partir avec des bons souvenirs, c'est mieux.
Les boys avaient fait un an et demi avec moi,
ouais.
Gros merci.
Ça fait plaisir.
Je remercie ceux qui sont pas là aussi, qui nous ont aidés à partir, Alexandre Racine et Camille Gélina, qui était notre ancienne directrice aux communications, qui a fait... le premier 3 mois avec moi, et mon Dieu que c'était cringe, mais bon.
On s'est amélioré depuis.
Oui, on s'est amélioré depuis. Ça fait une excellente expérience. Et sur ce...
On est parti en affaires.
On part en affaires pour l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathan va nous parler des changements de sortilèges qui sont majeurs dans la 5e édition.
Majoritairement, les nouveaux sorts, en fait, puis quelques aspects qui ont été changés, parce qu'il n'y a pas grand changement en termes de comment les sorts fonctionnent.
Hugo va nous faire une chronique du garage.
Mm-hmm. Je vais vous présenter les Pusherlock.
Et moi, cette semaine, je vais vous parler de, à mon avis, les 3 meilleures expansions disponibles dans le monde du jeu de rôle, du jeu de société présentement. Donc, si vous avez le jeu de base ou si vous regardez acheter un jeu et son extension, 3 incontournables, à mon avis.
Mm-hmm.
Hugo, on va commencer avec le garage.
Oui, et comme mentionné, je vous présente un peu les push your luck puis les stratégies. Pour ceux qui sont un peu moins au courant de c'est quoi, on avait eu la chance d'en discuter à quelques reprises en présentant des jeux de société qu'ils utilisent. Quand on parlait par exemple de Mystic Veil, de Distilled, des Charlatans de Belcastle qu'on avait présentés récemment. Ce sont tous des jeux qui introduisent cette mécanique-là.
Donc push your luck veut dire qu'éventuellement, ta lock va arrêter, puis tu vas avoir une conséquence.
Exactement. C'est vraiment ça, toute l'expression de ce type de mécanique-là, qui se distingue quand même des autres types de mécaniques de risque avec récompense, au sens où celle-ci en particulier va être que tu peux tenter ta chance autant de fois que tu le souhaites, mais... éventuellement avec une certaine quantité critique, parce que si tu te ramasses avec trop de mauvais résultats, tu perds tout. On pense initialement au jeu standard qui a introduit cette mécanique-là, le blackjack, dans lequel c'était le cas le plus typique. Là.
Si vous n'êtes pas familier avec le blackjack, on vous deal deux cartes. Vous devez aller le plus proche possible de 21 sans buster.
Donc vous pouvez piocher autant de fois que vous voulez. Mais éventuellement, vous allez nécessairement avoir une valeur trop haute. Et
plus tu tentes ta chance, moins tu es chanceux.
C'est ça. Dans le fond, le blackjack, dans toutes les valeurs qui sont pas qui sont pas 10 et moins, valent 11. Donc, l'as peut valoir 1 ou 11. Ouais. Le valet de cœur, le valet, la dame et le roi valent 11. Donc, si tu as un 12 devant toi, tu as quand même pas mal de chances. Si tu te dis, ben donne-moi une carte, tu vas buster sur les valets, les dames,
les rois. Non, pas les as, parce que les as vont prendre la valeur qui fait pas buster.
C'est ça. Fait que c'est 3 sur 13, c'est pas une grosse chance, mais c'est quand même une chance. T'sais. Puis là, plus tu montes dans cette. C'est un peu le même principe là, avec la plupart des jeux, parce que ça va souvent, la cible va souvent être une valeur numérique. Là.
On va souvent identifier ces jeux-là quand on voit qu'on peut prendre des risques et pousser juste même une fois qu'on est rendu à un endroit où c'est dangereux de le faire. Par exemple, quand on pense à Mystic Veil, que tu vas avoir le choix de continuer de piger des cartes pour avoir plus d'effets au risque de ne pas pouvoir les utiliser à leur plein potentiel. Ou encore à Clank, qu'on avait discuté, dans lequel t'explorais des donjons pour aller chercher des reliques, mais plus que tu t'enfonces loin... plus c'est dangereux parce que tu vas finir par devoir revenir si tu veux avoir tes points. Donc, plus tu t'enfonces loin, plus tu peux aller faire de points, mais plus que tu risques de mourir dans le fond sans avoir et perdre tout ce que
tu
as fait.
Plus tu passes de temps, plus tu fais du bruit, plus il y a de ta couleur dans le sac.
Plus c'est dangereux.
De pions de ta couleur dans le sac, c'est ça. Puis plus tu as de chance que ça sorte. Des fois, il y a 6 pions sur 40 pièces dans le sac, mais quelqu'un en pige 5 de toi. Puis après, tu piges un blanc.
C'est aussi une mécanique assez populaire qui a atteint beaucoup de milieux. Là. On pourrait même penser aux jeux de party, par exemple Code Names, dans lequel tu tentes de deviner des noms avec l'aide de tes collègues, mais tu as le droit de tenter ta chance sur une carte aléatoire sans avoir reçu aucun indice, par exemple, ou avec des indices extrêmement vagues. C'est donc une mécanique qui a beaucoup de potentiel, mais qu'il faut qu'on sache utiliser avec parcimonie.
On va dans un autre de mes aspects préférés du jeu de société, la gestion du risque.
Oui, exactement. Donc, dans ce type de jeu-là, parce que naturellement que d'autres versions de risque-récompense vont nécessiter d'autres stratégies, mais quand on a ce potentiel-là d'aller aussi loin qu'on veut, au prix de tout perdre, si jamais on buste, il y en a quelques-uns spécifiques à utiliser. Tout d'abord, dans plusieurs de ce type de ces types de jeux-là, il va y avoir des mécaniques, que ce soit des pions, des cartes ou des effets, qui permettent de réduire l'impact de la conséquence. Par exemple, si on nomme Clank qui dit que plus que tu t'enfonces loin, plus que tu fais du bruit, plus que tu fais du bruit, plus que tu te prends du dégât, toutes les cartes qui vont te permettre de réduire la quantité de bruit que tu fais ou de te soigner des dégâts que tu vas te prendre vont te permettre de risquer plus. Quand on pense par exemple à Mystic Veil, qui va avoir des cartes qui permettent d'annuler les effets les symboles négatifs pour les balancer.
Ouais, à un point tel où c'est possible de piger tes 18 cartes par tour, toutes les tours, sans risque, parce que bien t'as bien monté ton deck.
Donc, c'est ça. Soit vous pouvez acheter des cartes ou des effets qui vous permettent de minimiser l'impact de la conséquence, ou encore qui vous permettent de rallonger le moment avant que vous soyez à risque.
On va poursuivre cette discussion-là après la vraie pause.
Oh, c'était une petite pause, t'as vu?
Ben ouais, on a des petits problèmes, mais mon contenu de pause est disparu dans la console parce que
c'est un mystère. Mais c'est on va pouvoir continuer.
Oui, on peut continuer notre. J'espère que ces facs nous en vont pas trop, mais c'est pas comme s'ils peuvent nous enlever notre émission.
mais oui, donc on parlait des push your luck. Donc c'est ça. Tous les effets qui vont vous permettre de rallonger l'inévitable moment où votre chance va finir par vous manquer, que vous allez obtenir des conséquences, vous permettent d'aller chercher un peu plus de bonus dans vos jeux. La deuxième stratégie que je vous recommande d'aller chercher, on n'y échappe pas dans les jeux de type push or luck. Il faudra faire un peu de mathématiques.
Quoi, tu es en train de dire qu'il faut connaître les probabilités hein, pour jouer à ces jeux-là?
Si vous n'êtes pas obligé de calculer des probabilités, mais si vous êtes du style compétitif et que vous tenez absolument à gagner, c'est un incontournable. Vraiment, être en mesure de connaître la quantité de cartes ou d'effets qui vous font échouer versus la probabilité que vous réussissiez et comment cet effet-là s'entraîne va vous permettre de calculer ben, c'est quoi les probabilités que vous échouez et de prendre des décisions plus éclairées basées là-dessus. Si vous êtes sûr à 95% que si vous tentez votre chance à nouveau, vous allez échouer, ben vous allez peut-être être moins incité de le faire que si vous n'aviez pas calculé les probabilités et que vous pensiez que vous aviez une chance sur deux, par exemple.
Ouais. Puis après ça, tu as l'autre inverse où tu dis « Ah, il y a 95% de chances que je réussisse, là, ça foirera pas. » Eh bien, il y a certaines personnes qui vont piger le 5% tout le temps.
Naturellement, ça reste des probabilités. Donc, dans l'univers des probabilités, tu fais au mieux, mais ce sont des événements aléatoires. Puis c'est ça un peu qui fait l'attrait de ce type de jeu-là. Parce que, ben oui, il y a de la chance. On essaie de la manipuler autant qu'on peut. On tente d'utiliser les probabilités à notre avantage. Mais ça reste des probabilités seulement.
Moi, j'appelle ça de la chance molle. T'as de la chance dure. Ça, c'est un D6. Les statistiques ne changent jamais. Mais un truc comme ça, les stats vont changer à mesure que tu bouges. Mmh. C'est fluide. Donc, mou.
Donc, justement, utiliser les stratégies qui vous permettent de rallonger vos chances, augmenter vos probabilités, ben, il faut donc que vous soyez conscient de comment ça les modifie pour pouvoir faire vos actions. Mais on a mentionné que ben, y en a qui sont chanceux, puis il y en a qui ne le seront pas. Ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie des jeux de hasard, et ça va donc influencer vos propres stratégies. Si vous jouez de manière sécuritaire, que vous ne prenez pas beaucoup de risques, que ça va bien votre affaire, mais que vu que vous ne prenez pas beaucoup de risques, vous avancez moins rapidement, et que vous réalisez que les personnes à côté de vous prennent des risques et que ça a fonctionné, leur risque, eh bien, ça peut vous forcer à vous-même devoir en prendre pour suivre, pour suivre le rythme. Au contraire, si tout le monde prenait des risques et que vous avez réalisé que les autres joueurs ont tous échoué, vous pouvez, et ont donc pris beaucoup de retard, vous pouvez arrêter d'en prendre vous-même et simplement conserver votre avance. Voir donc ces différences-là, voir vérifier comment ça se passe chez les autres joueurs est donc assez important dans ce type de jeu-là pour savoir à quel moment c'est à vous d'arrêter de prendre des risques ou à vous d'en prendre. C'est pas mal tout, ça fait quand même une petite capsule. Y a pas, ça reste quand même un jeu de hasard, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Bonne chance! Et je vous espère que vous allez être meilleur dans ce type de jeu.
Donc moi, pendant que tu faisais ça, Hugo, j'ai essayé d'arranger mes affaires. J'ai retrouvé la pause et on va y aller juste 5 minutes en retard. De retour à Ludo Radio hors de contrôle. Non, sans blague, je pense que ça va aller d'ici la fin de l'émission. Ben, j'espère. Écoutez, c'est mon tour maintenant de contribuer. Et cette semaine, j'ai décidé, à la place de vous présenter un nouveau jeu, de vous présenter trois expansions de jeux qui sont déjà existants, qu'on a déjà présentés au club, mais qu'on ne vous a pas nécessairement présenté les expansions comme il faut. Alors, la première, moi, c'est un de mes jeux de worker placement préférés qui s'appelle Lords of Waterdeep. Dans le fond, les seigneurs de Waterdeep, de Eau Profonde, je suppose.
Non, Waterdeep, c'est un nom, c'est le nom d'une ville.
On n'appellera pas New York Nouvelle-York.
Alors, Lords of Waterdeep, c'est un jeu worker placement où vous placez vos agents pour aller chercher des ressources, et ces ressources-là vous permettent de compléter des missions. Et c'est dans les assez simples comme worker placement, mais quand même un jeu quand même le fun qui joue à plusieurs, qui va jusqu'à 5. Moi, j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que... Mais il y a une extension qui s'appelle Scoundrel of Skullport. Donc, les roubillards du port et du crâne. qu'est-ce que Scoundrel fait? Il vous ajoute deux expansions, à vrai dire, dans la même boîte. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec les deux, mais moi, je le recommande fortement. Dans le fond, quand vous ajoutez les deux expansions, vous enlevez la moitié des cartes du jeu de base, et la moitié des buildings du jeu de base, et ça va vous ajouter deux plateaux de placement de workers de plus. Donc, plus d'endroits où aller, donc plus d'agents aussi pour vous. Ça vous ajoute un agent dans votre main, indépendamment du nombre que vous jouez. Et ces placements-là sont particuliers. Il y en a qui sont extrêmement forts, mais qui viennent avec une conséquence qu'on appelle la corruption. Et à la fin de la partie, la corruption, vous l'accumulez. Plus il y a eu de corruption, plus elle enlève des points en fin de partie.
Donc, si beaucoup de joueurs ont été chercher de la corruption, ça enlève beaucoup de points à tous les joueurs.
C'est ça.
Mais s'il y a juste un joueur qui est allé en chercher, il ne perd pas tant de points. Donc, exactement, ça incite tous les joueurs à aller en chercher un peu parce que, ben, eux autres aussi veulent profiter des bonus que ça apporte à aller chercher de la corruption. Parce que, oui, ça fait perdre des points en fin de partie, mais ça donne beaucoup de bonus durant.
Ça fait des actions qui s'équivalent à deux actions normales qui ne produiraient pas de corruption sur le jeu de base. Et il y a aussi une mécanique pour se débarrasser de la corruption.
Ce qui est très, très importante, mais qui apparaît pas souvent, je dirais. Il y a des façons, mais il n'y en a ça pas beaucoup.
Ça dépend des parties, ça dépend des buildings qui vont sortir. Scoundrel of Skullport, elle joue beaucoup de variétés. L'autre partie de l'expansion, c'est un mode comme Epic où il y a des quests qui... Dans le jeu de base, les quests les plus payants sont 25 points. Il y a des quests qui donnent 40 points dans Scoundrels. Il rajoute aussi des façons de jouer ses cartes d'intrigue, des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça... le jeu de base est 7.5. Avec l'expansion, c'est un 8.3.
En fait, je me souviens pas avoir joué à ce jeu-là sans des extensions.
Ah, ça donne...
parce qu'à toutes les fois que j'ai joué, ou presque, c'était avec toi, puis tu c'est juste fait comme... Ouais, mais les extensions sont faciles à comprendre, sont faciles à intégrer.
Ils rajoutent pas tant de complexité mécanique, mais ils rajoutent de la profondeur.
Exactement.
Au jeu.
Rajoute de la profondeur, ajoute pas trop de complexité. Moi, je trouve que c'est l'extension parfaite, Scoundrel. Moi, je juge toutes les extensions de tous les jeux que je vais acheter par rapport à Scoundrel. Est-ce que ça ajoute de la complexité? Est-ce que ça ajoute du plaisir? Est-ce que ça ajoute de la profondeur? Puis, avec ces questions-là, on va pouvoir faire le tour. Puis, je vais l'avouer, je suis Monsieur Expansion, là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Je suis très content de ne pas aimer Everdell parce que j'aurai 450$ de boîte d'Everdell chez nous. La deuxième expansion que je vais vous présenter, c'est pour un jeu qui est dans mon top 5. Puis on s'entend, je joue à beaucoup de jeux. Là, fait que c'est l'extension Colonies de Terraforming Mars. Alors, si vous ne connaissez pas Terraforming Mars, c'est une construction de moteur où vous allez accumuler des ressources. Puis plus ça va, plus vous pouvez utiliser vos ressources pour faire des projets. Puis les projets vont en contrepartie vous donner plus de ressources. Puis le but, c'est de produire assez d'oxygène, assez de chaleur, puis assez d'eau pour rendre la planète de Mars habitable.
Un autre jeu qui peut finir rapidement et par surprise à la fin d'un tour, c'est comme « Ah!
» C'est un jeu qui commence lentement, qui va de plus en plus vite, comme dans tous les constructions de moteurs. Colonies apporte quoi?
Alors, Colonies va apporter, pour commencer, une mécanique de worker placement. Parce que vous avez tous un petit Starship quand vous commencez, et il y a un nombre de colonies égal au nombre de joueurs plus 2 qui sont disponibles. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller visiter toutes les colonies dans un tour. C'est possible parce qu'il y a des cartes qui vont vous ajouter des starships. Mais c'est pas une petite dépense à aller dans la colonie, alors tu veux vraiment que ton investissement paye. Puis il y a deux façons d'interagir. Tu peux construire toi un outpost sur une de ces planètes-là ou aller visiter avec ton Starship. Quand tu construis l'outpost, ça fait augmenter les ressources disponibles dans la colonie. Puis quand tu visites avec ton Starship, en présumant que tu es le premier à y aller, tu vas avoir les récompenses de cette colonie-là.
Donc, plus que les gens investissent dans une colonie, plus n'importe qui la visite obtient les meilleures récompenses.
C'est ça, exactement. Puis dépendamment de la colonie, il y a plein de bonus qu'on va avoir. Des fois, si tu es le premier à faire un outpost, ben t'as de l'eau gratuite pour Mars. Des fois, tu vas, tu produis deux de cash de plus. Ou tu produis une plante de plus. Mais des fois, ben, puis à chaque fois qu'on finit une génération, les ressources sur la planète vont augmenter. Donc, si on y va pas pendant 2-3 tours, et puis disons, on va dire que c'est de la verdure, des plantes, on peut y aller puis ramasser 8 plantes.
Ah, ça, c'est un. Il va falloir que tu poses. Est-ce combien de temps j'attends avant d'y aller pour pas que les autres y aillent avant moi?
Exactement.
C'est un autre bon niveau de réflexion.
Parce que dans le jeu de base, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les autres joueurs en termes de dire « Ah, ben je veux jouer cette carte-là désespérément avant quelqu'un d'autre, fasse quelque chose. »
Il y en a quand même. Les météorites et ces affaires-là qui vont...
Il y en a quelques-unes.
Mais j'avoue qu'il n'y a pas cette mécanique-là de... Ben, t'as aussi les concepts de milestone puis de awards, que ça, c'est une course, puis il n'y en a pas pour tout le monde. Fait que ça l'ajoute un petit peu, cette complexité-là, là, dans le...
De planifier sur quelle action on veut s'occuper, quand, dans un tour, on veut se dépêcher à faire certaines actions.
Puis, ben, les colonies, au début, c'est un gros investissement. Fait que ça peut être très payant en fonction de la tactique que vous avez. Puis y aller, ben c'est soit 3 électricités, 3 titanes ou 15 mégabox.
Ouais, ça, c'est 15 de cash.
C'est 15 mégabox, au début, c'est du cash. Là, surtout,
puis l'électricité, puis le métal, t'en as pas beaucoup non plus au
c'est
début.
Ça.
Là.
Mais ça peut s'inscrire dans une synergie avec ta corporation. Puis il y a des cartes qui donnent des starships de plus. Il y a des cartes qui donnent des colonies de plus. Puis il y a des cartes qui réduisent le coût d'aller visiter la colonie. Fait que si on s'appuie sur Colonies, puis on sélectionne nos cartes en fonction d'eux, ça peut être une contribution là, vraiment intéressante au moteur. Et je trouve que ça change bien la dynamique parce que ça rouvre une option de plus dans les courses de trucs à aller chercher. Alors ça, c'est Colonies. Puis ben là, je vois l'heure qui avance. On va aller au sport et aux nouvelles. Et au retour, je vais vous parler de la troisième et dernière expansion que je vous propose d'ajouter à votre lit de texte si vous avez déjà le jeu. De retour dans quelques minutes. Bien de bonjour, de retour à Ludo Radio, votre émission de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Et avant de partir à la pause, j'étais en train de vous présenter trois expansions que je considère des incontournables, que si vous avez le jeu de base ou même si vous achetez le jeu, que je vous propose fortement d'acheter. Et ma dernière expansion est semble un petit peu controversée de mes potes ici. Alors, on est trois grands joueurs et qui apprécient beaucoup la série de jeux de Dune Imperium, le jeu de base, Dune Imperium Uprising, et ces deux extensions. On a L'avènement d'X, Rise of X, et on a Immortalité, Immortality en anglais. Moi, j'ai choisi dans les expansions l'avènement d'X à la place de Immortality. Et les deux expansions amènent des dimensions vraiment intéressantes au jeu. Et ben moi, c'est sûr que Rise of X est sorti en premier, puis j'ai commencé à jouer plus avec celle-là qu'avec Immortality. Mais pourquoi je la préfère, c'est que cette expansion-là rend Dune Imperium, qui est un jeu extraordinaire, on s'entend, là, ça c'est dans mon top 5 aussi.
Ouais, non, ça j'ai pas de problème à le mettre dans le top 5 moi non plus. Okay.
Puis Vanille, fait que ça va amener encore plus, mais ça dénature pas le jeu. Et c'est là que Rise of X, je trouve qu'il va vraiment changer beaucoup trop la dynamique du jeu, à mon goût, par rapport à... Immortality va changer la dynamique du jeu versus Rise of X, ou qui va être un petit peu plus...
subtil dans ses modifications.
Oui, c'est ça. que c'est plus de la correction. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans... Ben, premièrement, Dune Imperium, c'est quoi? C'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de main. Vous ne pouvez pas placer vos ouvriers où vous voulez, même si le spot est ouvert, vous devez avoir une carte pour activer le lieu en question. Puis vous avez 5 cartes dans votre main, puis il y a la mécanique d'achat de cartes aussi. Puis ben, c'est un jeu où est-ce que vous pouvez aller chercher vos points de plusieurs façons. En faisant du combat, en faisant de l'intrigue ou en faisant de la diplomatie. Puis généralement, une façon... puis en récoltant de l'épice. Mais en général, une façon n'est pas suffisante de gagner. Il faut au moins deux, des fois trois.
Combiner les stratégies en fonction de ce qu'on obtient, des cartes qu'on s'est fait offrir,
des adversaires.
Et ce que j'aime de Rise of X, c'est qu'au lieu de nous créer un autre track pour aller chercher des points, comme dans Immortalité, on va plus aider à concentrer les stratégies de gestion.
Rajouter des mécaniques pour chacune des...
Dans le jeu de base, il y a juste une faction pour laquelle on doit avoir un certain rating pour débarrer quelque chose. C'est les Fremen qui vont nous débarrer une case assez forte qui va nous donner de l'eau et une troupe. Dans Rise of X, on a aussi besoin d'une bonne relation avec la Guilde, qui est une autre des factions, pour utiliser la traque de marchandage. Et c'est extrêmement fort. C'est à vrai dire tellement fort que la plupart du temps, c'est la première case qui est jouée. Il va y avoir un spot avec 5 épices qui t'attendent pour une goutte d'eau. Le monde va quand même aller accéder à cette case-là.
Il y a certaines stratégies qui nécessitent quand même d'aller voir les Fremen en premier, dépendamment de ce que tu as obtenu. Oui, là, mais...
Oui, puis généralement, ça rend aussi l'utilisation de la guilde vraiment plus intéressante. Parce que sans cette expansion-là, le premier pouvoir de la guilde, il est très bof. Oui. Ça te donne une carte, c'est très bof. Puis ben en plus, ça va rajouter beaucoup d'épices au niveau du combat. Parce qu'on se retrouve avec des nouveaux objectifs de combat qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. On se retrouve avec des dreadnoughts, qui sont les gros vaisseaux qui valent beaucoup plus en combat et qui ne sont pas consommés à la fin du combat, contrairement au restant des troupes. Donc, un investissement qui vaut la peine. Et il y a des technologies. Et les technologies, c'est là que vous pouvez, un, aller chercher des points, et deux...
soit des points immédiats ou des passifs permanents qui vont être là pour le restant de la
partie. Il y en a un, elle va vous donner une troupe gratuite à chaque tour. Il y en a une, elle va... briser les tiebreakers, vous gagnez avec... S'il y a des tiebreakers, vous gagnez. Il y en a une, elle va vous permettre de sacrifier votre dreadnought, mais elle va vous donner un point de victoire si vous gagnez votre combat. Fait que c'est des... Ça l'ajoute, je vous dirais, plus d'éléments qui peuvent venir perturber le jeu. Moi, quand je joue contre...
Plus de rebondissements,
oui,
là.
Beaucoup plus de rebondissements. Puis ça rend le jeu vraiment plus tough. Spécialement contre... moi, je joue beaucoup quand j'ai genre... j'ai une demi-heure, j'ai pas le goût de partir une game de Baldur's Gate 3. Ben, tiens, on va partir une game de Dune sur Steam. Le pauvre adversaire, dans le jeu de base, je vais le démolir tout le temps, mais avec Rise of X, mon taux de victoire, il est 30%. Là. C'est vraiment pas beaucoup là, par rapport à ce que j'étais habitué. Là.
Mais moi, ce que je dirais, en fait, c'est... Si tu veux l'expérience de Dune ultime... Prends les deux expansions et Dune.
Absolument.
Ou là, parce que l'expansion Immortalité, ce qu'elle rajoute, elle, c'est l'utilisation de la track des Bene Gesserit. Ça prend des contacts avec les Bene Gesserit pour aller chercher les trucs d'immortalité.
Ben, t'as la track des Tlélaxu aussi, là.
Oui, oui.
Mais oui, c'est ça. Ça rend deux tracks importantes, là. Puis il y a le fait.
Je pense qu'on peut dire que Dune en soi est un jeu assez complexe de base qu'on vous encourage à faire quelques parties dans le jeu de base avant d'aller chercher l'expansion.
Ah oui, c'est très très important ça, oui.
Mais si jamais vous avez déjà le jeu de base et que vous l'appréciez ou que ce type de jeu-là vous inspire beaucoup, puis après l'avoir essayé, vous avez du plaisir, ça rajoute vraiment de la profondeur puis de nouvelles mécaniques qui font en sorte que le jeu est juste plus le fun à jouer.
Puis c'était un peu l'idée de la chronique d'aujourd'hui. Mm-hmm. Trois expansions qui rehaussent le jeu.
Oui.
Puis ce sont des jeux vraiment de base. Hey, on va maintenant parler de magie dans D&D 2024,
oui, exactement. Je vais commencer en fait par l'étape principale. Comment fonctionne la magie dans 2024? ça n'a pas réellement changé. Ils ont toujours les trois composantes nécessaires, donc verbal, signe, puis matériel. Ça, ça n'a pas changé. Puis il y a toujours quatre types de casting time. En réaction, bonus action, action, ou en temps spécifique. C'est, par exemple, il y en a qui peuvent prendre jusqu'à 8 heures pour réussir à lancer le sort. Et il y a toujours la possibilité de lancer certains sorts en rituel. Donc, ne consomme pas de slot de magie.
Donc, si vous êtes hors de combat, vous faites votre casting, mais ça ne consomme pas votre utilisation de ce sort-là pour cette journée-là.
Ouais, c'est pertinent pour manager tes ressources quand tu le sais que tu peux avoir plusieurs combats dans une journée ou que tu n'as pas réellement de moment de te reposer entre deux combats. Donc ça n'a pas changé du tout.
En cinquième édition et dans la 2024, ce sont les casters qui utilisent ces sorts-là, qui ont des certaines utilisations par niveau, puis plus qu'ils vont évoluer, plus qu'ils vont avoir accès à des nouveaux sorts, à des sorts de plus en plus forts.
Mais ça fait que ça, c'est réellement genre exactement la même. Même la charte d'augmentation de quantité et de niveau est la même, elle est identique, donc ça, c'est pas rien de nouveau. Augmentation des sorts de soins, comme on en parle souvent. En fait, c'est qu'ils ont doublé toutes les dés des soins en général. Que ce soit potion ou sort.
Alors, on avait Healing Word qui se castait en réaction, qui donnait un des 4 plus 2.
Bonus action.
Ah, bonus, t'as raison.
Un des 4 plus 2, maintenant c'est 2 des 4
plus 2. 2 des 4 plus 2. Par niveau. Fait qu'au deuxième niveau, 4 des 4 plus 4. Ou 4 des 4 plus 2.
Ouais, c'est 4 des 4 plus 2. C'est le plus 2 et le modificateur ne change pas. C'est réellement juste la quantité de dés qui augmente. Donc, tu sais, c'est apprécié parce que souvent. Dans la cinquième édition, c'était généralement plus pratique de dire au lieu de soigner lui, je vais faire beaucoup de dégâts à l'adversaire.
Mm-hmm. C'était la stratégie de tu n'as pas besoin de soigner si la créature est morte. Là.
Exactement.
Ben, l'économie d'action n'aidait pas du tout les sorts de guérison. Je veux dire, les sorts de guérison étaient moins forts à niveau égal que les sorts d'attaque.
Et on s'entend qu'il y avait aussi le phénomène de dire si tu es bon en points de vie, surtout en plus haut niveau, soigner un peu ne servait pas à grand-chose parce que même si tu lançais ton Healing Word ou ton petit sort de soin, la personne allait quand même se faire damner en une attaque. Donc, tu étais mieux de juste attendre qu'elle tombe puis la soigner
et
après.
Et il y a aussi la fameuse règle que moi, j'ai toujours trouvé un petit peu jank. Que 13-3 points de vie, tu manges une attaque de 12, ben t'es pas tombé à moins 10, t'es à 0.
Non, ça c'est pas nécessairement le cas. Tu tombes à 0, tu tombes inconscient, mais il y a des mécaniques dans les livres de règles qui disent...
Bonus.
Non, c'est optionnel. C'est toutes des règles optionnelles que généralement j'utilisais, parce que techniquement, si tu descendais en bas de la moitié de tes points de vie en dessous de 0... C'était la mort instantanée.
Bon, mettons, tu as un personnage qui a 30 points de vie, il est à 2, il mange une attaque, il tombe pas à moins 12, il tombe pas à moins 10, il tombe à 0, il y a 3 saving throws à faire. Les gens peuvent le sauver. Dans les éditions antérieures, le gars qui était à 2 points de vie, qui tombait à moins 10, il est mort.
Ça fallait que tu tombes à 0.
C'est ça. Fait que ça fait un changement de paradigme assez important au niveau de la guérison.
Oui. Un autre changement que j'apprécie énormément, et c'est pour les gens qui ont aimé abuser Spirit Guardian et compagnie, maintenant, les instants de dégâts de ces sorts-là, Moonbeam, Spirit Guardian...
Tous les dégâts qui sont de manière... une zone que si t'es dedans, tu te prends du dégât à tous les tours.
Exactement. Eh bien, c'est maintenant rendu que tu peux prendre uniquement une instance de ces dégâts-là par tour.
OK, fait que si quelqu'un te prend avec télékinésie, te rentre, te sort.
C'est juste une fois que ça va fonctionner.
C'est juste une fois.
Donc,
c'est mieux de faire plusieurs sorts comme ça, prendre la télékinésie puis faire passer le gars dedans.
C'était capable.
J'ai pas joué du tout à Baldur's Gate 3 dernièrement. C'est un des sorts les plus underrated.
Ouais, mais bref. Donc, c'est-à-dire que ça, je trouve que c'est un changement qui est apprécié parce que justement, il y a beaucoup de joueurs qui abusaient de ces sorts-là puis faire comme... Ben, on va juste te sortir et te rentrer à répétition dans la zone, puis...
Tu te prends beaucoup de dégâts, puis ça faisait en sorte que les combats devenaient moins intéressants.
C'était une règle, personnellement, que j'utilisais, une règle de homebrew que j'utilisais, genre... Ouais, non, là, on va pas abuser les sorts. Une fois par tour.
T'as une autre minute pour nous parler d'un changement que tu aimes. Après ça, on va aller payer les billes, puis on va revenir pour terminer l'émission.
En fait, c'est dans les nouveaux changements, c'est qu'il y a des nouveaux sorts. Et un sort que j'apprécie beaucoup, ça s'appelle Arcane Vigor. Qui est un sort pour les sorciers et les wizards, qui en fait donne une possibilité pour ces classes-là de se soigner eux-mêmes.
Parce les que classes qui sont assez faibles en niveau de prendre du dégât, là, on se le cachera pas, c'est pas le wizard qui peut se prendre beaucoup de dégâts. Là.
Non, ça. Donc, en fait, grosso modo, le sort, c'est que tu peux utiliser un ou deux hit dice, donc les dés que tu prends pour te regagner de la vie en short rest, pour te soigner en combat.
Donc, bon. On active le repos du short rest.
Exactement. Fait que tu sais, c'est pas énorme non plus, mais tu sais, ça te permet de d'enlever du travail pour la personne qui heal normalement. Tu sais, de toute façon, t'es pas supposé être en front line avec ces classes-là, de toute façon.
De toute façon. Mais bon, il y a des exceptions, Bladesinger, entre autres.
Oui, il y a des exceptions, mais genre, pour le Bladesinger, justement, cette capacité-là est quand même agréable parce que, bien, ça te permet de te soigner en combat. Puis c'est juste une bonus action pour caster ce sort-là.
Ooh. On va aller payer nos bills pour... puis revenir pour...
voir la fin des nouveaux sorts.
Hein. Oui. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Et avant la pause, Nathan nous parlait des changements des sorts dans D&D 2024.
Yep. Donc, on va poursuivre, hein, parce que le temps avance quand même. Le sort suivant que je trouve un peu débalancé, pour plusieurs raisons, s'appelle Befuddlement, qui est un sort de niveau 8, donc quand même qui arrive relativement tard dans la partie.
Et c'est pas toutes les aventures qui vont se rendre jusqu'à obtenir des sorts de level 8. Là.
Non, c'est ça. Et c'est uniquement disponible pour le Wizard. Donc, tu sais, c'est... c'est faux. Bard, Druid, Warlock, Wizard. Donc, il y a quand même beaucoup de monde qui y ont accès.
Oh, Warlock, attention.
Oui.
Parce qu'on va s'entendre, le Warlock, une très petite liste de sorts.
Oui. C'est un sort qui requiert un Intelligence Saving Throw. Donc, ça veut dire... un jet d'intelligence pour réussir à ne pas recevoir les dégâts au complet.
Et de mémoire, il y a juste les wizards qui ont ça.
Oui, ils sont proficiency, il y a juste les wizards. Et sur un échec du jet, tu reçois 10 des 12 de psychic damage. Donc, pas beaucoup de personnes qui sont résistantes à ces dégâts-là, de base.
Une moyenne de 65 points de dégâts, à peu près.
Dans un tour, ce qui est quand même beaucoup. Et la personne qui a échoué ne peut plus caster de sort pendant 30 jours. Après 30 jours, il doit refaire le save. Il y a des façons de le guérir, avec Greater Restoration, Heal ou Wish, mais c'est tout.
OK.
Ce qui fait en sorte qu'en combat, si c'est contre un joueur ou contre un monstre qui utilise des sorts, pour le restant du combat, il ne
sert à rien.
C'est le I Win Button contre ce joueur-là.
Donc, quand j'ai lu ce sort-là, je fais comme, oui, dans les mains d'un DM, c'est peut-être un si peu fort, genre attaquer des joueurs avec ça, ça serait chiant. Je dirais que de l'utiliser pour des raisons d'histoire, donc faire avancer la narration de ton histoire, ok?
Faire en sorte que ça devienne un objectif de se soigner ou d'empêcher que ce type de sort-là se réalise ou une mécanique comme ça pourrait être intéressante.
Est-ce que le saving throw est pour la moitié des dégâts?
Oui, si tu échoues, c'est quand même la moitié des dégâts.
Fait que tu vas manger 30 points de dégâts, ce qui est pas...
ce qui est pas négligeable.
Non.
C'est juste que tu peux continuer de lancer des sorts quand même. Là. Mais c'est quand même 30 points de dégâts, quand même si tu réussis ton jet.
Et plus que Bifadon, à mon avis, là, genre t'es quasiment...
Mais pour des sorts de niveau 8, c'est pas un sort de dégâts purs, au sens de des choses qui font plus de dégâts que ça au niveau 8.
Ouais, mais c'est l'effet de tu peux pas lancer de sort par après. L'effet tu peux pas lancer de sort ou prendre d'action magique.
Oui, ça inclut utiliser des scrolls, utiliser des objets magiques ou n'importe quel autre.
Tu peux pas utiliser
affaire.
Ta wand of fireball. Non, ça. C'est complet. C'est gros quand même là, comme effet.
En effet. Fait que utiliser avec parcimonie.
Oui. Et avec un but spécifique. Faut pas que ton but soit de dire
faire mal aux joueurs.
Je vais empêcher le cléric de soigner les gens. Non, pas faire ça. Le sort suivant. Qui est un sort pour les wizards, qui en fait te permet de lancer un sort sur un objet. Et après ça, n'importe quand, tu peux casser un saphir, qui vaut 1000 gold. Fait que c'est quand même un sort qui est
pas
cher.
À tous les jours.
À ne pas faire à tous les jours. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va transporter cet objet-là à toi.
Peu importe où.
La seule restriction, c'est si quelqu'un porte ou tient l'objet, l'objet ne vient pas à toi, mais tu sais, il est où physiquement dans l'univers.
Okay.
Et aussi, un autre truc qui est intéressant, c'est que cet objet-là vient à toi, même si tu n'es plus dans le même plan que l'objet.
Ah, donc, ça vient de rendre tous les coffres, voûtes, etc. complètement inutiles, sauf s'il y a une zone anti-magie dedans.
Mais il faut que tu aies réussi à aller enchanter l'objet.
Ouais, ça, faut que tu touches l'objet pour pouvoir m'enchanter.
Tu peux pas voler un objet de n'importe où dans l'univers.
Ouais, mais je peux penser narrativement à plein de façons qu'un vilain va voler la couronne du roi ou quelque chose comme ça.
Ah oui,
absolument.
Ah oui. C'est juste. C'est un sort qui est quand même intéressant. Je ne m'amuserai pas à prononcer son nom parce qu'il y a plein de lettres à la suite qui ne sont pas supposées être une à la suite de l'autre. Donc, je ne me risquerai pas. Un nouveau cantrip pour le druide, sorcerer et wizard qui s'appelle Elementalist, qui te permet grosso modo de générer, de moduler des éléments. C'est pas un sort de dégâts. C'est un peu comme Prestidigitation ou Druidcraft. Qui fait comme des petits effets.
Toutes les classes de caster avaient pratiquement un effet justement de juste petit effet fun, plaisant, RP, prestigitation, automaturgie, druidcraft qu'on avait mentionné. Puis ça permet d'en avoir un autre pour les classes qui ne l'avaient pas encore. Là.
Ouais, fait que c'est juste intéressant là, comme truc, mais c'est rien de game changing non plus. Fount of Moonlight, barre des druides. Tu crées un cylindre de lumière. Et c'est quand tu attaques la créature devient illuminée sur 40 pieds. Donc 20 pieds de bright light puis 20 pieds de dim light. Tu obtiens des résistances au radiant damage. Et quand tu fais des melee attaques, tu rajoutes 2d6 de radiant damage.
C'est la créature qui s'est fait faire ça.
Ouais. Généralement, tu fais ça sur un allié. Là.
C'est un buff avec concentration.
Oui.
Donc, je te donne une pichinotte, puis tu as une chance sur 3 de manquer ton save.
Oui, mais par contre, si tu reçois des dégâts, eh bien, tu peux utiliser ta réaction pour rendre la personne qui t'a attaqué aveugle avant de perdre la concentration sur ton sort.
Ou si jamais tu l'avais lancé sur quelqu'un puis que toi tu te sens en arrière, ben cette personne-là peut utiliser sa réaction pour avec.
Exactement.
C'est des dégâts de mêlée ou c'est des n'importe
quel dégâts? Ouais, des dégâts de mêlée.
OK.
Donc tu mets ça sur ton tank en avant qui a des bonnes constitutions, il peut rendre ses adversaires aveugles. Bonne façon de donner avantage à ton fighter pour qu'il proc ses crits à 18-19.
C'est un sort que j'aimerais avoir si j'étais pogné à me battre contre des ombres ou des wraiths, quelque chose comme ça. Là.
Prochain sort qui est quand même intéressant, c'est un wannabe moonlight, moonbeam du Warlock, niveau 5, fait qu'il est plus haut niveau. Lui, c'est un cylindre de rayon de 10 pieds et de hauteur de 40 pieds. Toutes les créatures qui sont dans ce cylindre-là sont aveuglées, assourdies et ne peuvent pas lancer de sort qui requiert un verbal component.
Okay. Donc, c'est qu'un cylindre de silence et d'aveuglement. Oui.
Ah, oh, il fait pas juste ça. Naturellement, il fait 2d10 de dégâts radiants et 2d10 de thunder damage sur un deck save. Donc, c'est... count save, puis c'est moitié de dégâts si tu réussis ton count save. Mais par contre, tous les autres trucs, ça, c'est pas du count save. Si t'es dans le cylindre, c'est ça qui arrive. Donc, pour tous ces principes-là, c'est encore une fois, c'est juste un instant de dégâts par tour.
Est-ce que au même titre que Moonbeam, tu peux le déplacer à tous les tours?
Non, c'est la seule différence entre les deux, c'est que tu le fais à une place spécifique, puis...
Pratique, par exemple, si tu veux tenir un corridor ou...
Oui. Mm-hmm. Un autre que je trouve très intéressant, Power Word Fortify. Tu obtiens 120 points de temp HP que tu peux répartir en 6 personnes.
Ah, OK.
Ben, jusqu'à 6 personnes. Hein. C'est de 1 à 6. Donc, techniquement, tu peux mettre 120 temp HP sur ton paladin en frontline.
Un sort quel niveau, ça?
Niveau 7.
OK, fait que tu n'as juste un par jour.
Deux niveau 7. Ben, c'est 8, 9, 10 seulement. C'est 7, 8, 9, 10.
Éventuellement, tu peux en avoir un deuxième.
Ouais, c'est souvent, tu utilises des points de magie ou un truc comme ça. Là.
Truc intéressant pour le Sorcerer, nouveau cantrip pour rivaliser avec Eldritch Blast. Ça s'appelle le Sorcerer's Burst. C'est un range attaque. Tu choisis le type de dégâts. Acid, feu, cold, lightning et compagnie. Tout sauf psychic, radiant, puis force. Tout sauf force et radiant, c'est vrai, psychic, il peut.
Bon, donc ça. Les sorcerers qui étaient sur-spécialisés peuvent prendre ce sort-là un petit peu pour se défendre. Ouais. Je prends un sorcerer du feu qui est pris contre des créatures immunisées contre le feu.
Ça permet pas faire de changer. Grand-chose, là. La mécanique intéressante sur ce sort-là, c'est 1d8 de dégâts. Niveau 1, après ça l'augmente en termes de niveau. Mais si sur ton d8, tu roules un 8, tu peux rouler un deuxième d8 et ajouter ces dégâts.
Une espèce de wild die.
Ouais. Et en fait, à toutes les fois que tu roules un D8, tu peux rouler un D8 supplémentaire. Un 8 sur ton D8, tu peux rouler un D8 supplémentaire. Jusqu'à ton spellcasting modifier.
Ouais, même si t'es chanceux, tu feras pas infini dégâts.
Non, c'est ça.
Mais donc, tu peux en faire pas mal si t'es chanceux.
t'en reste un à temps. Après ça, on n'aura plus de temps, malheureusement.
Un truc, je vais prendre celui qui me préfère dans les trois qui me restent à présenter, c'est le Tasha's Bubbling Cauldron. Qu'est-ce que ça fait? Tu fais apparaître un chaudron qui contient une potion. La potion peut être common ou uncommon. Et toi et tes alliés, tu peux prendre ton action pour dire « Je prends une potion dans le chaudron. » Jusqu'à ton spellcasting modifier. C'est la quantité de potions que le chaudron peut contenir.
C'est un chaudron de panoramix.
Oui. Et en fait, c'est techniquement quand tu consommes la potion, le vials dans lequel la potion était disparaît. Mais tant que tu n'as pas relancé le sort, tu peux conserver les potions.
Donc, okay. Ça peut te donner beaucoup d'effets de potions à utiliser.
Puis c'est
d'avance.
Et c'est n'importe quelle potion common ou uncommon. Donc, on parle ici de Potion of Giant Strength. Le Giant Ill Strength. À plus 21 de...
Je me souviens plus, invisibilité, c'est-tu uncommon?
Oui. Il me semble que oui.
Oui, donc tu peux avoir jusqu'à 5 potions d'invisibilité. Gaz c'est un plus form. 5 aussi. Potion de healing aussi.
Mm-hmm. Tu n'as pas fait... besoin de connaître le sort. Fait que c'est un sort qui remplace un paquet de sorts utilitaires, cette affaire.
Ouais.
Quel niveau?
Attends, là, mon téléphone a fermé. Fait que je te donne ça quand je vais rouvrir le téléphone. Niveau 6.
Niveau 6.
Warlock Wizard.
Donc...
Et le component que tu as besoin, c'est une louche travaillée qui vaut au moins 500 pièces d'or. Qui n'est pas consommé lorsque tu lances le sort.
Okay, fait que c'est un focus.
Ouais. En général, ça fait en sorte qu'il y a plein de nouveaux sorts. Ils ont modifié certains sorts.
Ils ont modifié qu'on les beaucoup de sorts. Ont...
Ça rend le Warlock puis le Sorcerer pas mal moins SOL quand quand les circonstances... Ben, tu sais, Warlock, on s'entend, il y a une petite spell list.
Ouais.
Il ajoute ce sort-là dans sa spell list. Ah, soudainement, il a accès à un paquet de choses qu'il n'aurait pas. Fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser une de ces slots pour garder invisibilité ou
gaz de form. Ça entraîne beaucoup d'effets intéressants. Puis au haut niveau, ça rajoute aussi des...
C'est surtout aussi ce qui est intéressant, c'est que tant que tu n'as pas relancé le sort, tu gardes, tu conserves tes potions. Donc, tu sais, c'est comme, ben, en début, genre, tu dis « Hey, on va aller affronter ce donjon-là. » Ben avant de rentrer dans le donjon, je vais faire ça.
C'est tout pour aujourd'hui, malheureusement.
Ben oui.
Dernière émission la semaine prochaine.
Déjà.
Ben oui. Mm-hmm. Fait que ça nous a fait plaisir. On vous revoit pour une dernière fois la semaine prochaine. D'ici là, on va vous souhaiter une super bonne semaine. À la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine.